Spinoza, traduction Charles Apoun. Éthique, démontrée suivant l'ordre géométrique, est divisée en 5 parties où il est traité. Partie 1, de Dieu. Partie 2, de la nature et de l'origine de l'âme. Partie 3, de l'origine et de la nature des affections. Partie 4, de la servitude de l'homme ou des forces des affections. Partie 5, de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. Première partie, de Dieu. Proposition 1 à 13. Définition. 1. J'entends par cause de soi ce dont les sens enveloppent l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante. Partie 2. Cette chose est dite finie en son genre, qui peut être limitée par une autre de même nature. Par exemple, un corps est dit fini parce que nous en concevons toujours un autre plus grand. De même, une pensée est limitée par une autre pensée. Mais un corps n'est pas limité par une pensée, ni une pensée par un corps. Partie 3. J'entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose, duquel ils doivent être formés. 4. J'entends par attribut ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. 5. J'entends par mode les affections d'une substance, autrement dit, ce qui est dans une autre chose par le moyen de laquelle il est aussi conçu. 6. J'entends par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Explication. Je dis absolument infini et non infini en son genre, car de ce qui est infini seulement dans son genre, nous pouvons nier une infinité d'attributs. Pour ce qui, au contraire, est absolument infini, tout ce qui exprime une essence et n'enveloppe aucune négation appartient à son essence. 7. Cette chose est dite libre, qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seule à agir. Cette chose est dite nécessaire, ou plutôt contrainte, qui est déterminée par une autre à exister et à produire quelque effet dans une condition certaine et déterminée. 8. J'entends par éternité l'existence elle-même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Explication. Une telle existence, en effet, est conçue comme une vérité éternelle, de même que l'essence de la chose, et pour cette raison, ne peut être expliquée par la durée ou le temps, alors même que la durée est conçue comme n'ayant ni commencement ni fin. Axiome 1. Tout ce qui est ou bien en soi, ou bien en autre chose. 2. Ce qui ne peut être conçu par le moyen d'une autre chose doit être conçu par soi. 3. D'une cause déterminée que l'on suppose donnée, suit nécessairement un effet, et au contraire, si nulle cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet suive. 4. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. 5. Les choses qui n'ont rien de commun l'une avec l'autre ne se peuvent non plus connaître l'une par l'autre. Autrement dit, le concept de l'une n'enveloppe pas le concept de l'autre. 6. Une idée vraie doit s'accorder avec l'objet dont elle est l'idée. 7. Toute chose qui peut être conçue comme non-existence, son essence n'enveloppe pas l'existence. Proposition 1. Une substance est antérieure en nature à ses affections. Démonstration. Cela est évident par les définitions 3 et 5. Proposition 2. Deux substances ayant des attributs différents n'ont rien de commun entre elles. Démonstration. Cela est évident par la définition 3. Chacune, en effet, doit exister en elle-même et doit être conçue par elle-même. Autrement dit, le concept de l'une n'enveloppe pas le concept de l'autre. Proposition 3. Si des choses n'ont rien de commun entre elles, l'une d'elles ne peut être cause de l'autre. Démonstration. Si elles n'ont rien de commun entre elles, elles ne peuvent donc, axiome 5, se connaître l'une par l'autre, et ainsi, axiome 4, l'une ne peut être la cause de l'autre. CQFD. Proposition 4. Deux ou plusieurs choses distinctes se distinguent entre elles, ou bien par la diversité des attributs des substances, ou bien par la diversité des affections des substances. Démonstration. Tout ce qui est, est en soi ou en autre chose. Axiome 1. C'est-à-dire, définition 3 et 5, que rien n'est donné hors de l'entendement, sinon les substances et leurs affections. Rien donc n'est donné hors de l'entendement, par quoi plusieurs choses puissent se distinguer. Sinon, les substances, ou ce qui, définition 4, revient au même leurs attributs et leurs affections, c'est QFD. Proposition 5. Il ne peut y avoir, dans la nature, deux ou plusieurs substances de même nature ou attribut. Démonstration. S'il existait plusieurs substances distinctes, elles devraient se distinguer entre elles, ou par la diversité des attributs, ou par la diversité des affections. Proposition précédente. Si elles se distinguent seulement par la diversité des attributs, il est donc accordé qu'il n'y en a qu'une du même attribut. Si maintenant elle se distingue par la diversité des affections comme une substance, proposition 1, est antérieure en nature à ses affections, on ne pourra, mettant ses affections à part et la considérant en elle-même, c'est-à-dire définition 3 et axiome 6 en vérité, la concevoir comme distincte d'une autre, et en d'autres termes, il ne pourra y avoir plusieurs substances, mais seulement une. C'est QFD. Proposition 6. Une substance ne peut pas être produite par une autre substance. Démonstration. Il ne peut pas y avoir dans la nature deux substances de même attribut. Proposition précédente, c'est-à-dire proposition 2, ayant entre elles quelque chose de commun. Et ainsi, proposition 3, l'une ne peut pas être cause de l'autre, autrement dit, l'une ne peut pas être produite par l'autre. CQFD. Corollaire. Il suit de là qu'une substance ne peut pas être produite par autre chose, car rien n'est donné dans la nature sinon les substances et leurs affections, comme il est évident par l'axiome 1 et les définitions 3 et 5. Or, une substance ne peut être produite par une autre substance, proposition précédente. Donc, absolument parlant, une substance ne peut pas être produite par autre chose, c'est QFD. Autre démonstration. Cette proposition se démontre encore plus facilement par l'absurdité de la contradictoire. Si, en effet, une substance pouvait être produite par autre chose, sa connaissance devrait dépendre de la connaissance de sa cause, axiome 4. Et ainsi, définition 3, elle ne serait pas une substance. Proposition 7. Il appartient à la nature d'une substance d'exister. Démonstration. Une substance ne peut pas être produite par autre chose. Corollaire de la proposition précédente. Elle sera donc cause de soi, c'est-à-dire, définition 1, que son essence enveloppe nécessairement l'existence. Autrement dit, il appartient à sa nature d'exister. CQFD. Proposition 8. Toute substance est nécessairement infinie. Démonstration. Une substance ayant un certain attribut ne peut être qu'unique, proposition 5, et il appartient à sa nature d'exister, proposition 7. Il sera donc de sa nature qu'elle existe soit comme chose finie, soit comme chose infinie. Mais ce ne peut être comme chose finie, car, définition 2, elle devrait être limitée par une autre de même nature, qui, elle aussi, proposition 7, devrait nécessairement exister. Il y aurait donc deux substances de même attribut, ce qui, proposition 5, est absurde. Elle existe donc comme infinie. CQFD. Scoli 1. Comme être fini est en réalité une négation partielle, et être infini l'affirmation absolue de l'existence d'une nature quelconque, il suit donc, de la seule proposition 7, que toute substance doit être infinie. Scoli 2. Je ne doute pas qu'à tous ceux qui jugent des choses confusément, et n'ont pas accoutumé de les connaître par leur première cause, il ne soit difficile de concevoir la démonstration de la proposition 7. Il ne distingue pas, en effet, entre les modifications des substances et les substances elles-mêmes, et ne savent pas comment les choses sont produites. D'où vient qu'il forge pour les substances l'origine qu'il voit qu'ont les choses de la nature. Ceux qui, en effet, ignorent les vraies causes des choses, confondent tout, et, sans aucune protestation de leur esprit, forgent aussi bien des arbres que des hommes parlants, imaginent des hommes naissant de pierre, aussi bien que de liqueurs séminales, et des formes quelconques, se changeant en d'autres également quelconques. De même aussi, ceux qui confondent la nature divine avec l'humaine attribuent facilement à Dieu les affections de l'âme humaine, surtout pendant le temps qu'ils ignorent encore comment se produisent ces affections. Si, au contraire, les hommes étaient attentifs à la nature de la substance, ils ne douteraient aucunement de la vérité de la proposition 7. Bien mieux, cette proposition serait pour tous un axiome et on la rangerait au nombre des notions communes. Car on entendrait par substance ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont la connaissance n'a pas besoin de la connaissance d'une autre chose. Par modification, ce qui est en autre chose, le concept des modifications se formant du concept de la chose en quoi elles sont. C'est pourquoi nous pouvons avoir des idées vraies de modification non-existence, bien qu'elles n'existent pas en acte hors de l'entendement. Leur essence, en effet, n'en est pas moins comprise en une autre chose par laquelle on peut la concevoir, tandis que la vérité des substances, en dehors de l'entendement, ne réside qu'en elles-mêmes, parce qu'elles se conçoivent par elles-mêmes. Si donc l'on disait qu'on a d'une substance une idée claire et distincte, c'est-à-dire vraie, et qu'on doute néanmoins si cette substance existe, en vérité, tant vaudrait dire qu'on a une idée vraie et qu'on doute si elle est fausse, ainsi qu'il devient manifeste avec un peu d'attention. Ou encore, qui admettrait la création d'une substance, admettrait du même coup qu'une idée fausse est devenue vraie, et rien de plus absurde ne peut se concevoir. Il faut donc nécessairement reconnaître que l'existence d'une substance, tout de même que son essence, est une vérité éternelle. Et de là, nous pouvons conclure d'une nouvelle manière qu'il ne peut y avoir qu'une substance unique d'une certaine nature, ce que j'ai cru qui valait la peine d'être montré ici. Mais pour le faire avec ordre, il faut observer. Premièrement, que la vraie définition de chaque chose n'enveloppe et n'exprime rien, sinon la nature de la chose définie. D'où suit, deuxièmement, que nulle définition n'enveloppe et n'exprime jamais aucun nombre déterminé d'individus, puisqu'elle n'exprime rien, sinon la nature de la chose définie. Par exemple, la définition du triangle n'exprime rien de plus que la seule nature du triangle, non tout un nombre déterminé de triangles. Troisièmement, il faut noter que pour chaque chose existante, il y a nécessairement une certaine cause en vertu de laquelle elle existe. Quatrièmement, il faut enfin noter que cette cause en vertu de laquelle une chose existe doit ou bien être contenue dans la nature même et la définition de la chose existante, alors en effet il appartient à sa nature d'exister, ou bien être donnée en dehors d'elle. Cela posé, il suit que si dans la nature il existe un certain nombre d'individus, il doit y avoir nécessairement une cause en vertu de laquelle ces individus, et non un moindre ou un plus grand nombre, existent. Si par exemple, il existe dans la nature 20 hommes, je suppose pour plus de clarté qu'ils existent tous en même temps et n'ont pas été précédés par d'autres. Il ne suffira pas, pour rendre compte de l'existence de ces 20 hommes, que nous fassions connaître la cause de la nature humaine en général. Il faudra, en outre, que nous fassions connaître la cause pour laquelle il n'en existe ni plus ni moins de 20, puisque, en vertu de la troisième observation, il doit y avoir nécessairement une cause de l'existence de chacun. Mais cette cause, suivant les observations 2 et 3, ne peut être contenue dans la nature humaine elle-même, puisque la vraie définition de l'homme n'enveloppe pas le nombre de 20. Et ainsi, d'après l'observation 4, la cause pour laquelle ces 20 hommes existent, et conséquemment chacun d'eux en particulier, doit être nécessairement donnée en dehors de chacun. Et pour cette raison, il faut conclure absolument que pour toute cause, telle que plusieurs individus de sa nature puissent exister, il doit y avoir nécessairement une cause extérieure en vertu de laquelle ces individus existent. Dès lors, puisque, comme on l'a déjà montré dans ce scoli, il appartient à la nature d'une substance d'exister, sa définition doit envelopper l'existence nécessaire et conséquemment son existence doit se conclure de sa seule définition. mais de sa définition, comme on le voit par les observations 2 et 3, ne peut suivre l'existence de plusieurs substances. Il en suit donc nécessairement qu'il n'existe qu'une seule substance de même nature, ce qu'on se proposait d'établir. Proposition 9. À proportion de la réalité ou de l'être que possède chaque chose, un plus grand nombre d'attributs lui appartiennent. Démonstration. Cela est évident par la définition 4. Proposition 10. Chacun des attributs d'une même substance doit être conçu par soi. Démonstration. Un attribut est en effet ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. Définition 4. Et par suite, définition 3, il doit être conçu par soi. CQFD. Scoli 1. Par là, il apparaît qu'encore bien que deux attributs soient conçus comme réellement distincts, c'est-à-dire l'un sans le secours de l'autre, nous ne pouvons en conclure cependant qu'ils constituent deux êtres, c'est-à-dire deux substances différentes, car il est de la nature d'une substance que chacun de ses attributs soit conçu par soi, puisque tous les attributs qu'elle possède ont toujours été à la fois en elle et que l'un ne peut être produit par l'autre, mais que chacun exprime la réalité ou l'être de la substance. Il s'en faut donc de beaucoup qu'il y ait absurdité à rapporter plusieurs attributs à une même substance. Il n'est rien au contraire dans la nature de plus clair que ceci. Chaque être doit être conçu sous un certain attribut et à proportion de la réalité ou de l'être qu'il possède. Il y a un plus grand nombre d'attributs qui expriment et une nécessité, autrement dit une éternité, et une infinité. Et conséquemment aussi que ceci. Un être absolument infini doit être nécessairement défini, comme il est dit dans la définition 6. Un être qui est constitué par une infinité d'attributs dont chacun exprime une certaine essence éternelle et infinie. Si l'on demande maintenant à quel signe nous pourrons donc reconnaître la diversité des substances, qu'on lise les propositions suivantes. Elles montrent qu'il n'existe dans la nature qu'une substance unique et qu'elle est absolument infinie, ce qui fait qu'on chercherait vainement un tel signe. Proposition 11. Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement. Démonstration. Si vous niez cela, concevez, si cela est possible, que Dieu n'existe pas. Son essence, axiome 7, n'enveloppe donc pas l'existence. Or, cela, proposition 7, est absurde. Donc, Dieu existe nécessairement. CQFD. Autre démonstration. Pour toute chose, il doit y avoir une cause ou raison assignable, pourquoi elle existe ou pourquoi elle n'existe pas. Par exemple, si un triangle existe, il doit y avoir une raison ou cause pourquoi il existe. S'il n'existe pas, il doit aussi y avoir une raison ou cause qui empêche qu'il n'existe ou ôte son existence. Cette raison ou cause, d'ailleurs, doit être contenue ou bien dans la nature de la chose ou bien hors d'elle. La raison, par exemple, pour laquelle un cercle carré n'existe pas, sa nature même l'indique, attendu qu'elle enveloppe une contradiction. Pourquoi une substance au contraire existe, cela suit aussi de sa seule nature, parce qu'elle enveloppe l'existence nécessaire. Proposition 7. Il en est autrement de la raison qui fait qu'un cercle ou un triangle existe ou qu'il n'existe pas. Elle ne suit pas de leur nature, mais de l'ordre de la nature corporelle tout entière. Car il doit suivre de cet ordre, ou bien que ce triangle existe actuellement par nécessité, ou qu'il est impossible qu'il existe actuellement. Et cela est par soi évident. Il s'ensuit que cette chose existe nécessairement, pour laquelle il n'est donné aucune raison ou cause qui empêche qu'elle n'existe. Si donc, aucune raison ou cause ne peut être donnée qui empêche que Dieu n'existe ou ôte son existence, on ne pourra du tout éviter de conclure qu'il existe nécessairement. Mais, pour qu'une telle raison ou cause pût être donnée, elle devrait être contenue ou bien dans la nature même de Dieu, ou en dehors de cette nature, c'est-à-dire dans une autre substance de nature autre. Car, si elle était de même nature, il serait accordé par la même qu'un Dieu est donné. Mais, une substance qui serait d'une autre nature ne pourrait rien avoir de commun avec Dieu. Proposition 2. Et donc, ne pourrait ni poser son existence, ni l'ôter. Puis donc que la raison ou cause qui ôterait l'existence divine ne peut être donnée en dehors de la nature de Dieu, elle devra nécessairement, si l'on veut qu'il n'existe pas, être contenue dans sa propre nature, laquelle devrait alors envelopper une contradiction. Or, il est absurde d'affirmer cela d'un être absolument infini et souverainement parfait. Donc, ni en Dieu, ni hors de Dieu, il n'est donné aucune raison ou cause qui ôte son existence, et en conséquence, Dieu existe nécessairement. CQFD. Autre démonstration. Pouvoir ne pas exister, c'est impuissance. Et au contraire, pouvoir exister, c'est puissance, comme il est connu de soi. Si donc ce qui existe à l'instant actuel nécessairement, ce sont seulement des êtres finis seront plus puissants qu'un être absolument infini. Or, cela, comme il est connu de soi, est absurde. Donc, ou bien rien n'existe, ou bien un être absolument infini existe aussi nécessairement. Or, nous existons, ou bien en nous-mêmes, ou bien en autre chose qui existe nécessairement. Voir axiome 1 et proposition 7. Donc, un être absolument infini, c'est-à-dire, par la définition 6, Dieu, existe nécessairement, CQFD. Scoli. Dans cette dernière démonstration, j'ai voulu faire voir l'existence de Dieu a posteriori, afin que la preuve fût plus aisée à percevoir. Ce n'est pas que l'existence de Dieu ne suive a priori du même principe. Car si pouvoir exister c'est puissance, il s'ensuit que plus à la nature d'une chose il appartient de réalité, plus elle a par elle-même de force pour exister. Ainsi, un être absolument infini, autrement dit Dieu, a de lui-même une puissance absolument infinie d'exister. Et par suite, il existe absolument. Peut-être cependant, beaucoup de lecteurs ne verront-ils pas aisément l'évidence de cette démonstration, parce qu'ils ont accoutumé de considérer seulement les choses qui proviennent de causes extérieures. Et parmi ces choses, celles qui se forment vite, c'est-à-dire existent facilement, ils les voient aussi périr facilement, tandis que celles qu'ils conçoivent comme plus riches en possession, ils les jugent plus difficiles à faire, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas qu'elles existent si facilement. Pour les libérer de ces préjugés, cependant, je n'ai pas besoin de montrer ici dans quelle mesure est vrai ce dicton, ce qui se fait vite périt de même. Ni même si, eu égard à la nature totale, toutes choses sont nécessairement faciles ou non. Il suffit de noter seulement que je ne parle pas ici de choses qui proviennent de causes extérieures, mais seulement des substances qui, proposition 6, ne peuvent être produites par aucune cause extérieure. Car, pour les choses qui proviennent de causes extérieures, qu'elles se composent de beaucoup de parties ou d'un petit nombre, tout ce qu'elles ont de perfection ou de réalité est dû à la vertu de la cause extérieure. Et ainsi, leur existence provient de la seule perfection de cette cause, non de la leur. Au contraire, tout ce qu'une substance a de perfection, cela n'est dû à aucune cause extérieure. C'est pourquoi, de sa seule nature, doit suivre son existence, qui par là n'est autre chose que son essence. La perfection, donc, d'une chose n'ôte pas l'existence, mais au contraire la pose. C'est son imperfection qui l'ôte. Et ainsi, nous ne pouvons être plus certains de l'existence d'aucune chose que de l'existence d'un être absolument infini ou parfait, c'est-à-dire de Dieu. Car, puisque son essence exclut toute imperfection et enveloppe la perfection absolue, par là même, elle ôte toute raison de douter de son existence et en donne une certitude souveraine, comme je crois que le verra toute personne un peu attentive. Proposition 12. De nul attribut d'une substance, il ne peut être formé un concept vrai, d'où il suivrait que cette substance peut être divisée. Démonstration. Ou bien, en effet, les parties dans lesquelles la substance ainsi conçue serait divisée retiendront la nature de la substance, ou bien elles ne la retiendront pas. Dans la première hypothèse, chaque partie, proposition 8, devra être infinie, et, proposition 6, à cause de soi, et, proposition 5, être constituée par un attribut différent. Ainsi, d'une seule substance, plusieurs substances pourront être formées. Ce qui, proposition 6, est absurde. Ajoutez que les parties, proposition 2, n'auraient rien de commun avec leur tout, et que le tout, définition 4 et proposition 10, pourrait être et être conçu sans ces parties. Ce que personne ne pourra douter qu'il ne soit absurde. Soit maintenant la deuxième hypothèse, à savoir que les parties ne retiendront pas la nature de la substance. Dès lors, si la substance entière était divisée en parties égales, elle perdrait sa nature de substance et cesserait d'être, ce qui, proposition 7, est absurde. Proposition 13. Une substance absolument infinie est indivisible. Démonstration. Si elle était divisible, les parties dans lesquelles elle serait divisée, ou bien retiendraient la nature d'une substance absolument infinie, ou bien ne la retiendraient pas. Dans la première hypothèse, il y aurait plusieurs substances de même nature, ce qui, proposition 5, est absurde. Dans la deuxième, une substance absolument infinie pourrait, comme on l'a vu plus haut, cesser d'être, ce qui, proposition 11, est également absurde. Corollaire. Il suit de là que nulle substance, et en conséquence nulle substance corporelle en tant qu'elle est une substance, n'est divisible. Scoli. Qu'une substance est indivisible, cela se connaît encore plus simplement par cela seul que la nature d'une substance ne peut être conçue autrement que comme infinie, et que, par partie d'une substance, il ne se peut rien entendre sinon une substance finie, ce qui, proposition 8 implique une contradiction manifeste.